Il y a un timbre propre à chaque désastre, une acoustique de la détresse. Même avec des milliers de kilomètres qui nous séparent, je ressens physiquement une grande violence, la pression qui s'exerce à l'autre bout du monde sur sa cage thoracique. D'habitude, Jérôme a une voix calme, posée. La détermination des diphtongues, l'ampleur des labiales, le souffle narquois des nasales, toute la gamme de sa voix se déploie sur un ton aimable, conciliant, avec la patine d'un grand journaliste habitué à gérer les bouillonnements du monde. C'est une voix d'alto, douce et large. Il l'enfle rarement, ne la force jamais. Très peu de mouvements brusques dans cette voix. Sa vitalité ne se mue jamais en une véhémence, et il ne cherche jamais non plus à lui donner une inflexion caressante ou une ambiguïté calculée. Décantée de toute dureté, elle s'orne même en fin de phrase d'une pointe d'accent d'Olioul, comme une branche de thym, qui lui donne une saveur particulière et une grande légèreté. Mais aujourd'hui, François est mort.
Merci pour cette lecture, Michael Ferrier. Vous êtes écrivain, vous vivez à Tokyo où vous enseignez la littérature. On vous doit de nombreux essais sur le Japon, des romans comme Sympathie pour le fantôme, des récits, magnifiques récits sur Fukushima, récits d'un désastre. Et vous venez de nous lire l'extrait du livre qui vient tout juste de paraître chez Gallimard en cette rentrée littéraire, François, portrait d'un absent. C'est le livre qui est né de la perte de ce François qui était un ami de jeunesse, dont vous avez appris la disparition une nuit d'hiver 2013 par une voix blanche. Tout commence par la voix blanche d'un autre ami qui vous apprend sa mort au téléphone. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre 4 ans après?
Alors c'est la mort de François Christophe, et aussi de sa fille, de sa petite fille Baya. C'est un événement tragique. Elle avait 11 ans. Et donc une nuit à Tokyo, dans le silence de la nuit, il y a un appel comme ça qui déchire la nuit, un appel téléphonique, et j'apprends cette mort. Et alors évidemment, dans ces cas-là, on est un peu sidéré. Et pour essayer de lui rendre hommage, parce que c'était un être vraiment exceptionnel, et un grand ami, j'ai écrit ce livre, rendre hommage à François Christophe, et aussi, au-delà de cet hommage, ou plutôt à travers lui, élaborer peut-être petit à petit, par touche, une réflexion sur ce que c'est que l'amitié aujourd'hui. Nous avons tous des amis, mais cette notion d'amitié, il me semble qu'elle est très galvaudée parfois. Donc j'ai voulu réfléchir un peu là-dessus, les amis.
Est-ce que vous l'avez pensé comme un tombeau littéraire? C'est toujours un peu grave de dire ça. Vous dites à un moment, vous écrivez à un moment du livre que votre livre, vous le souhaitez aussi grave que le marbre et aussi léger que le ciel. Pour l'avoir lu, je pense qu'il est parfaitement réussi de ce point de vue-là.
Merci.
Parce que vous le voulez plus ouvert qu'un tombeau.
Mais oui, parce qu'un tombeau, c'est l'image de la tombe. Déjà, on entend dans le mot tombe quelque chose qui tombe. Donc moi, je préfère rendre des hommages qui s'élèvent. Et puis, je voulais pas d'une commémoration. Dans commémoration, dans le mot aussi commémoration, on entend cette espèce de puissance de la mort. Donc je voulais rendre un hommage qui lui ressemble, et cet hommage, donc, je le voulais, oui, aussi grave que le marbre, aussi léger que le ciel, c'est-à-dire avec une pointe de légèreté aussi.
Alors, Michael Ferrier, il se trouve que vous avez donné son prénom et son nom, ça n'est pas pour rien, c'était quelqu'un que vous connaissiez très très bien et qui existe réellement, c'est le récit de sa vie, c'est le récit de votre amitié, ce livre François, portrait d'un absent. C'est aussi quelqu'un qu'on connaissait ici, à France Culture. D'ailleurs, il y a beaucoup de très belles pages sur la radio dans votre livre. Il était entré, François Christophe, en 2009 comme réalisateur de fiction, et on a l'extrait d'un film qui a été fait sur lui, dans lequel on l'entend travailler et on l'entend diriger des comédiens. On va écouter la voix donc de François
Christophe. Ah oui, avec plaisir.
On va refaire une fois ce petit passage-là pour 2-3 choses. Prenez encore un peu plus de temps au début. Vraiment, n'hésitez pas. Il y a une chose qu'on ne comprend pas très bien. Parce que
c'est le policier, non?
Non, ça va, c'est ça. Quand vous voulez le téléphone. Parce que du coup, bon, c'est un son, mais
on ne sait pas. Non,
mais non, mais je pense qu'il faudrait peut-être même le jouer physiquement. C'est-à-dire, passe, hein, même le dire une fois, comme ça. Oui. Et de lui prendre le téléphone et ça sera plus compréhensible.
Quand débute le Shabbat? Et les bougies? Attends, maman veut te parler.
C'est mieux, ça.
Notre Shabbat. Mon fils religieux, j'arrive toujours pas à le croire.
Ah, dommage, dommage. Hein? Dommage.
Pardon?
On peut refaire ça, c'était super, mais ça a un tout petit peu savonné sur le... Reprenons au moment où elle veut récupérer le téléphone. C'était beaucoup mieux, ça. C'était très bien. Ça tourne.
Voilà la voix de François Christophe, il y a quelques années, dirigeant des comédiens pour une fiction à la radio. Il a notamment adapté en feuilleton Millennium, Les Misérables, qui ont rencontré un formidable succès. Michael Ferrier, vous dites que la radio l'a presque sauvé.
Oui, parce qu'il avait commencé par le cinéma, il a fait la grande école de cinéma, la Fémis, et il a fait d'abord un très beau film, il en a fait plusieurs, mais il y en a un, notamment son premier film qui s'appelle Thierry, Portrait d'un absent. Le titre François, Portrait d'un absent fait directement référence à ce film, évidemment, qui est un film vraiment bouleversant sur un SDF, ou sur les SDF à travers Thierry, donc ce SDF qui zonnait dans le quartier des Halles à Paris et un peu partout. Et donc, oui, il avait commencé par ce film-là fantastique. Et après, il avait été un peu déçu par le cinéma parce que c'est difficile de faire des films, il faut trouver de l'argent, il faut des tas de considérations économiques un peu extra-esthétiques. Et donc, il s'était tourné vers la radio où il a fait aussi un début de carrière extraordinaire. Mais il n'avait pas du tout oublié le cinéma, je pense qu'il y serait revenu un jour ou l'autre. Mais la radio lui a ouvert quelque chose aussi et lui-même, il a ouvert beaucoup de choses à la radio. Je pense qu'il a apporté énormément de choses à l'adaptation radiophonique, j'allais presque dire radiographique, tellement François avait une espèce de pouvoir de scan comme ça des œuvres littéraires sur France Culture notamment, ouais.
Et je vous le confirme, la directrice de la fiction ici, Blandine Masson à France Culture, ne tarit pas d'éloges sur ce qu'a apporté François Christophe et en particulier sur le fait qu'il a révolutionné la radio en inventant des films sonores. Alors pour donner une idée à nos auditeurs, beaucoup d'entre nos auditeurs ont déjà entendu les Millennium et Les Misérables. On va écouter un petit extrait des Millennium, si vous le voulez bien.
Et je vous propose d'entendre ça. Michael Blomqvist, le journaliste de la revue Millennium, a été condamné ce matin à 3 mois de prison pour diffamation aggravée à l'encontre de l'industriel Hans-Erik Wennerström. Rappelons que dans l'un de ses articles, il accusait ce dernier d'avoir détourné des biens sociaux à des...
Éteins cette télé, Erika, ça me rend malade. Avoir perdu contre ce gangster.
Tu pouvais pas deviner que les choses tourneraient aussi mal, que tu te retrouverais sans la moindre preuve.
J'ai jamais pris une telle raclée. Un amateur n'aurait pas fait pire.
Mais écoute, on a toujours pris des risques, ça fait partie de notre politique.
Il faut empêcher la catastrophe. Il faut que Christer prenne ma place comme gérant.
Michael, t'es pas le seul responsable. Moi aussi, j'ai ma part de culpabilité. Je vois pas pourquoi tu devrais être le seul à payer.
Erika, c'est la seule solution. Il faut que je disparaisse de Millennium pendant quelques temps. Non seulement en tant que gérant, mais aussi en tant que journaliste et associé. C'est le seul moyen pour que la revue survive.
Et qu'est-ce que tu comptes faire quand tu seras plus au journal?
Déjà, faire une pause. Souffler. Je suis totalement épuisé. Ensuite, on verra.
Tu veux de la compagnie ce soir?
Je crois que ça me ferait le plus grand bien.
Ah bah t'as de la chance. J'ai déjà prévenu Lars que je dormirai chez toi.
Tu es le plus précieux des maris, surtout n'en change jamais. Hein.
Voilà un extrait du premier épisode de Millennium adapté, mis en onde donc par François Christophe. C'était en 2011, la première diffusion, Michael Ferrier. Et c'est là qu'on rejoint finalement à la fois le côté très visuel et l'écoute, et qu'on rejoint l'amitié dont vous parliez, puisque c'est aussi un éloge de l'amitié, ce livre que vous avez fait, puisque vous écrivez « François était un homme d'écoute », on le retrouve à la radio. Il savait ouvrir l'oreille, et c'est pourquoi il pouvait susciter l'affection la plus profonde, car l'amitié n'est rien d'autre que cela, une écoute, c'est-à-dire l'ouverture à une pulsation, une vibration, ou pour le dire plus concrètement encore, une corde tendue entre les êtres, fragile, ténue, tenace, qui surmonte le vide et ne repose sur rien. Éloge de l'amitié donc à travers cette relation que vous avez eue depuis très longtemps, hein. C'est une amitié de jeunesse.
Voilà, c'est une amitié de jeunesse. Alors ça, c'est très important ce que vous venez de dire, parce que on est à la radio ici. On vit aujourd'hui dans une société où l'image est omniprésente et omnipuissante. Et c'est planétaire, hein, c'est le règne planétaire de l'image. Et je trouve que dans une image, ça se truque, on le sait très bien, ça se retouche. la radio apporte quelque chose qui est extraordinaire, qui est qu'on ne peut pas tricher, ou en tout cas on ne peut pas tricher très longtemps. On peut truquer une voix, bien sûr, mais l'émotion, ça passe énormément par la voix et par l'oreille. Et de ce point de vue-là, donc, effectivement, vous avez raison, il y a un rapport évident entre la radio et l'amitié. Chaque matin, comme ça, vous touchez des auditeurs par l'oreille, et c'est pas du tout la même chose que d'être devant son poste, devant l'écran plat, ultra plat, hein, c'est la dernière chose à la mode, on veut les écrans les plus plats possibles, mais à la radio, au contraire, il y a une espèce de souffle qui passe, de volume, voilà. On n'est pas dans la platitude, on est dans le volume, on est dans les contrastes, dans les nuances. Et moi, c'est pour ça que je défends la radio, vraiment. Aujourd'hui, elle est nécessaire, elle est indispensable, de manière plus spectaculaire que jamais. Oui.
Alors, je vois sur l'éloge de l'amitié, vous faites un éloge de la radio. Merci
beaucoup.
C'est la même chose.
C'est savoir écouter les gens, savoir aussi leur parler. Et puis c'est au-delà de l'écoute, c'est l'entente, voilà. On parle aujourd'hui de savoir vivre, le vivre ensemble. Et c'est une question aussi d'oreille. Ça passe par l'oreille. Il faut savoir, je vous parle, vous m'écoutez, vous me répondez. Il faut savoir s'écouter pour. Faut savoir s'interrompre pour écouter quelqu'un. Il faut savoir l'interrompre aussi de temps en temps, ce que vous n'allez pas tarder à faire peut-être. Et voilà. Et un dialogue se met en place. Et c'est comme ça que ça naît une amitié. Bien sûr.
Alors, votre amitié avec François Christophe, Mickaël Ferrier, est née, il y a quelques 30 ans, hein, oui. Un peu plus de 30 ans. C'était au lycée La Canale de Sceaux, où vous étiez tous les deux internes. Vous racontez dans ces pages, qui sont plutôt d'ailleurs des pages solaires, des pages lumineuses, hein, de votre livre, comment vous aimiez tous les deux, puisque vous étiez deux étudiants, boire, fumer, draguer, écouter de la musique aussi. Vous racontez son amour pour le cinéma, vos projets ensemble, les voyages au Japon. C'est vraiment une déambulation à travers votre amitié à tous les deux. Et c'est ça le côté solaire du livre.
Oui, parce que je voulais surtout pas d'un livre d'effusion sentimentale. Je voulais pas non plus quelque chose de pathétique. Donc, parce que ça ne correspondait tout simplement pas à ce qu'était notre amitié, qui était quelque chose de léger, de très ironique, de très sarcastique. François avait un humour incroyable, et toute une palette d'humour d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce passage aussi sur les années à La Canale. C'était aussi le portrait d'une époque, hein, une époque de jeunesse, d'insouciance, d'expérimentation en tout genre, pas seulement littéraire ou intellectuel. Et voilà, donc j'ai voulu aussi retracer à travers le portrait de François, c'est aussi le portrait d'une époque, les années 80, et aussi le portrait d'un monde qui n'a pas disparu aujourd'hui, qui s'est transformé, qui a muté, mais voilà. Ouais.
Pour qui écrit-on ce genre de livre, Mickaël Ferrier ?
Alors là, clairement, le premier destinataire, c'est François. Alors on va me dire, il est mort, bon, mais on écrit pour les morts aussi, on n'écrit pas seulement pour les vivants, on écrit pour tous ceux qui nous ont précédés. Et je pense à Baya aussi, sa petite fille qui elle est morte avec lui. Et ensuite après, bon, on écrit pour tous ceux qui voudront le lire, pour tous ceux que ça intéressera ou que ça n'intéressera pas, mais qui à un moment donné vont trouver quelque chose dans le livre, oui. Je me pose pas tellement la question de savoir pour qui j'écris quand j'écris, j'essaye de trouver un ton, j'essaye de trouver des mots, et après c'est au lecteur de se décider. Il fait ce qu'il veut, le lecteur, il est libre.
Un ton, des mots et de la musique. On écoute là, Mickaël Ferrier, c'est Drôle de corps, une pièce de François Couperin, dont vous dites que François Christophe l'aimait particulièrement, cette pièce, et que finalement il avait aussi un drôle de corps.
Oui, François, il adorait la musique baroque.
On entendait d'ailleurs tout à l'heure Gustave Léonard. Là, c'est pas Gustave Léonard hein, qui joue, mais au clavecin, on entendait les variations Goldberg, la numéro 25 par Léonard.
Et le drôle de corps, oui, parce qu'il avait lui-même un drôle de corps. J'insiste beaucoup dans le livre sur son physique. Je parle pas tellement de ses attaches familiales, qui étaient importantes pourtant pour lui. Hein. Je parle pas non plus d'un milieu social. J'ai centré le livre sur le corps de François, qui était un corps...
Et sa voix.
Et sa voix aussi, oui. Et c'était un... Oui, c'est... J'aime bien comme ça. Mon père me disait souvent, à partir d'un certain âge, on est responsable de la gueule qu'on a. Ce qui est vrai. Le visage qu'on a, il est donné au départ, mais après on le modèle, on le burine, on le transforme. Et le corps, c'est pareil, je trouve. On lit beaucoup de choses quand on regarde le corps des gens, mais il faut savoir décrypter, il faut savoir scanner, il faut bien regarder les gens. Il faut pas simplement voir des images, des apparences de corps. Il faut y aller à fond. Et là, on apprend énormément de choses, beaucoup plus parfois que dans une conversation, un geste. Une patte doigt sur un œil, au coin d'un œil, ou un sourire, la façon de sourire, la voix, évidemment, on en parlait tout à l'heure. Donc tout ça est révélateur. Voilà, oui.
Regardez vos amis, interrogez leurs gestes, leurs mouvements, leurs atomes, lisez sur leurs lèvres, feuilletez leur peau, déchiffrez leur teint, pénétrez leur visage et imaginez leurs poumons. Intéressez-vous à leur système nerveux. Écoutez leur pouls, sachez faire parler leurs muscles, leurs tendons, épelez patiemment toutes les nuances de leur santé, de leur humeur, leur complexion. Alors peut-être vous approcherez tout en douceur du grand mystère. Quel grand mystère ?
Celui de l'amitié. Ouais. Ben oui. Aujourd'hui, on a des amis Facebook. Alors, c'est très bien.
Pas seulement, n'exagérez pas.
Non, mais
on a aussi des amis Facebook.
Oui, mais simplement, quand on dit amis Facebook, c'est un peu étrange, parce que moi, j'appellerais plutôt ça des contacts, des relations. Ce sont des très beaux mots aussi, contacts, relations, mais ça désigne autre chose. Je dis pas qu'il n'y a pas d'amis.
D'ailleurs, on a des vrais amis qu'on retrouve
sur Facebook.
Sur Facebook,
exactement. Mais quand même, Facebook ou tous les réseaux sociaux, à mon avis, hein, mais bon... C'est mon avis et je le partage, comme dirait l'autre, mais à mon avis, c'est des réseaux un peu d'espionnage sentimental, d'autopromotion sociale. Ce n'est pas que ça, on est bien d'accord. Mais il me semble que quand on dit ami Facebook, bah, il y a à boire et à manger là-dedans. Il y a de tout, il y a des vrais amis et puis il y a aussi beaucoup d'autres choses. Donc je pense que la notion de l'amitié, c'est quand même un peu diluée, voire dégradée, et que c'est important quand même de savoir ce que c'est qu'un ami, de savoir qu'on peut compter sur lui, de savoir comment il parle, comment il vit. Sur les amis Facebook, c'est très bien, mais finalement, ils sont parfois très lointains.
Et de savoir également, et on y revient là, puisque je vous parlais tout à l'heure de la musique dans votre texte. Elle est baignée de musique. On entend du Couperin, on entend du Bach, qu'aimait particulièrement François Christophe. Mais elle est aussi reliée, comme la radio l'est, à l'amitié, puisque vous écrivez, Michael Ferrier, que l'amitié est une musique. Et vous donnez même en exergue de votre livre un extrait du traité de l'amitié de Matteo Ricci. Lorsque deux amis vivent en harmonie, ils créent une musique.
Oui, voilà, exactement. C'est une phrase de Matteo Ricci. Et je crois que c'est profondément vrai. C'est-à-dire qu'il y a dans l'amitié entre deux êtres, ou entre plusieurs êtres, il y a une certaine distance régulée qui se crée. Je ne crois pas du tout, moi, à l'amitié fusion. C'est-à-dire à l'amitié où les gens sont ensemble 24 heures sur 24. Ça peut arriver, hein, on passe un week-end entre amis et là, on est très souvent ensemble. Mais je crois que l'amitié, ça se construit dans une certaine distance, dans un certain réglage. C'est pour ça qu'il y a des amitiés, des fois, qui se fracassent quand on change de partenaire amoureux, par exemple. Tout d'un coup, on perd certains amis. Quand on change de travail, les amis s'en vont ou au contraire, il y en a d'autres qui arrivent. Et cette notion de réglage de l'amitié, la façon dont on règle ou on dérègle ses amitiés, il me semble que c'est très proche de ce qu'on peut faire sur une partition de musique. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a quelque chose de musical dans l'amitié.
Notre invité ce matin est Michael Ferrier, écrivain, auteur de François, portrait d'un absent qui vient de paraître aux éditions Gallimard dans la collection L'Infini. Un livre, Michael Ferrier, nous le disions à l'instant, qui s'inscrit dans la veine des textes sur l'amitié. Vous interrogez sur cette question de comment naît l'amitié, comment elle peut se terminer, comment elle peut se suspendre. D'ailleurs, vous racontez la brouille que vous avez eue avec cet ami auquel vous consacrez votre livre, cet hommage. Vous racontez même la brouille brouille qui a duré deux ans de silence entre vous, partant d'un projet de travail avorté, et vous dessinez ces contours de l'amitié. Comment fait-on pour écrire sur l'amitié? Est-ce que on lit des textes, on lit Montaigne, on lit La Fontaine, on lit Matteo Ricci, puisque vous en avez fait un exergue? Est-ce qu'on part de sa propre expérience?
Les deux, mon capitaine. Bien sûr, on part de sa propre expérience. Moi, je n'écris qu'à partir de ce que j'ai vécu, de ce que je vis aussi. Et oui, bien sûr, on lit des textes. Alors là, dans la culture occidentale, il y en a beaucoup, et notamment Montaigne. Évidemment, dès qu'on pense amitié, notamment en France, on pense Montaigne et la Boétie. Mais c'est très étrange, l'amitié, parce que c'est un sentiment qui est quasi inexplicable. Hein. Des fois, on se dit, mais on se demande, mais pourquoi ils sont
lui,
amis?
Voilà, pourquoi lui,
pourquoi moi? Voilà. Et si vous vous souvenez bien, Montaigne y répond. Il répond parce que c'était lui, parce que c'était moi. Ce qui est une réponse d'une simplicité évidente, assez désarmante, pleine d'ironie, je pense. Et c'est là qu'on rejoint la question de la musique dont vous parliez tout à l'heure. Parce que la réponse de Montaigne, hein, pourquoi j'étais ami avec la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est une réponse qui n'est pas une réponse finalement, parce que c'est un truisme, c'est une évidence. Mais quand on l'écoute, cette réponse, pas seulement quand on se contente de la lire, mais quand on l'écoute, qu'est-ce qu'on entend? Parce que c'était lui, parce que c'était moi, c'est un alexandrin. C'est-à-dire, c'est les 12 syllabes, c'est le vers, le grand vers de la métrique française. Et donc, c'est, voilà, il répond de cette manière-là, dans une réponse qui a l'air un peu énigmatique, mais qui en fait, tout d'un coup, lorsqu'on s'aperçoit que c'est un alexandrin, on s'aperçoit qu'il dit clairement, nous étions amis avec la Boétie, moi Montaigne et lui la Boétie, parce que justement nous avions su créer une musique, une certaine forme de rythme, un balancement entre nous deux. Hein. Deux amis, ce sont deux hexasyllabes qui se rencontrent, quoi. C'est deux moitiés de vers qui tout d'un coup matchent ensemble, se rencontrent et ça crée une musique, effectivement.
C'est joli ça, les deux hexasyllabes qui se rencontrent, on va le noter. Michael Ferrier, c'est aussi, à côté d'être un très beau texte sur l'amitié, c'est aussi un texte qui s'inscrit dans une autre veine, si tant est que ce soit une veine, qui est celle de la littérature de fantômes. Il se trouve que vous avez aussi écrit Sympathie pour le fantôme. Qu'est-ce que c'est que cette littérature de ces... Vous dites d'ailleurs la littérature est l'art du deuil par excellence, mais est-ce que nécessairement les fantômes sont liés à la mort et vice-versa?
Oui, quand même, oui. Oui, mais évidemment, il y a une certaine mode même du fantôme en littérature. On en a vu beaucoup ces derniers temps, ces dernières années, des livres sur les fantômes. Je crois que c'est assez significatif. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure du règne planétaire de l'image. Quand vous allez même à Tokyo, à New York, à Paris, vous allez dans des bars où il y a des télévisions. Moi, ça, c'est vraiment, je sais pas, je vais pas dans un bar pour voir la télé, quoi.
C'est même difficile d'entrer dans un bar où il n'y a pas d'écran de télévision.
Ouais. Et mais moi, ça me semble complètement absurde. Je veux dire, quand on va dans un bar, c'est surtout pas pour regarder la télé, on regarde la télé chez soi. Alors évidemment, après, dans le cas d'une grande manifestation sportive, ça se comprend, on retrouve une forme de rapport avec les autres. Mais ce que je voulais dire, c'est que, justement, par rapport à ça, par rapport à ce règne de l'image, au visible, on demande à tout d'être visible, à tout d'être transparent. Et il me semble que cette thématique des fantômes, là, ça nous rappelle qu'il y a de l'invisible. Il y a des choses qui se passent et qui sont pas visibles. Et les relations entre les gens, justement, elles passent souvent par là, par des ondes, finalement.
Michael Ferrier, vous vivez donc au Japon, où on trouve des écrans de télévision dans les bars, comme à Paris,
comme
ici
à Paris,
en France,
ouais.
Où vous venez régulièrement également. Quand vous arrivez en France, où vous venez régulièrement depuis votre Japon, où vous vivez maintenant depuis de très très nombreuses années,
ouais.
Qu'est-ce que vous avez comme impression aujourd'hui ?
Bon, je crois que c'est un secret pour personne que la France va assez mal.
Mais vous le ressentez ?
Oui, on le ressent quand on se promène dans la rue, quand on voit... Quand on voit la misère sociale, quand on voit à côté des grandes richesses qui se créent, qui s'étalent, oui, moi quand je rentre en France, à chaque fois, j'ai l'impression que mon pays va pas très bien. Ça veut pas dire que tout est noir, mais je suis frappé, par exemple, à Paris, par les SDF. Alors j'en parle aussi dans le livre parce que François avait fait ce très beau film dont je parlais tout à l'heure sur un SDF et je suis frappé par ça parce que c'est un problème qui dure mais depuis des années et des années et des années et qui semble presque maintenant ça fait partie du paysage parisien de voir des gens comme ça qui se traînent dans la misère, qui sont sales, qui peuvent pas se laver, qui peuvent pas se nourrir, qui mendient. Bon, je sais pas, la France est un grand pays, nous dit-on, et moi j'en suis certain, et donc il faudrait quand même faire quelque chose là-dessus. Oui.
Bon, terminons sur une note peut-être un peu plus légère, ouais. Si vous le voulez bien, Michael Ferrier. Vous restez un peu de temps, peut-être, à Paris, en France, pour votre livre qui va tourner. Ouais. Parce qu'il se trouve que le Japon est à l'honneur. Vous avez peut-être envie de quitter le Japon le temps que vous êtes en France, mais le Japon est à l'honneur en France cet automne, avec des expositions du théâtre et de la danse. On mettra les références sur notre page internet, bien sûr, mais je vous invite à aller voir quelques spectacles. Peut-être, d'ailleurs, vous nous conseillerez mieux que nous pouvons le faire. Il est 7h39, on arrive au terme de cet entretien. Et nous terminons en musique, bien évidemment, avec une des musiques qui est au cœur de votre livre, Straight No Chaser, Thelonious Monk, que vous écoutiez beaucoup dans vos années de jeunesse avec François, donc, auquel vous consacrez ce très beau livre. Merci Michael Ferrier.
Merci à vous.
Voilà Michael Ferrier, François Portrait d'un absent, un livre édité chez Gallimard. Il est 7h40 sur France Culture et tout de suite c'est la Fabrique médiatique.